J'aimerais vous commencer par vous raconter une petite histoire qui est une vraie histoire, c'est un témoignage de ma vie. Je pense qu'on avait, je ne sais pas, 12, 13 ans, peut-être mes parents me rappelleront. Avec ma sœur, on avait envie d'avoir un petit chat, un petit chaton. C'est mignon, non? Un petit chaton, mais nos parents ne voulaient pas. Et un jour, ma sœur a une amie qui lui dit: « J'ai une portée de chats et tout, il y en a qui sont là, ils sont à donner, t'en voudrais pas un ?» Puis ma sœur a dit: « Ouais, je vais en prendre un. » Et on a pris ce chaton et on l'a mis dans la chambre et on s'est dit: « C'est bon, si on le cache, personne ne le verra. Même s'il fait du bruit, on dira que c'est une peluche. » Et finalement, le secret est venu à la lumière. Bien entendu, le chat n'est pas resté muet et très rapidement, notre trésor caché avait été découvert. On a dû rendre ce petit chat avec notre tristesse et acheter une peluche. Non, on n'a pas acheté une peluche. Mais nous avons rendu ce petit chat parce que nous n'avions pas l'autorisation de le faire. Même si c'était caché, même si c'était mignon, ce n'était pas permis. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vouloir cacher quelque chose, de faire quelque chose dans le secret? Je pense que la réponse est oui, hein, je ne suis pas devin, mais je le crois. Et je trouve que c'est impressionnant de réaliser que beaucoup de choses se font en cachette afin que personne ne soit au courant de la situation. La plupart du temps, nous cachons les choses que nous ne sommes pas prêts à assumer. Ou peut-être les choses, et j'ai envie de dire généralement les choses interdites, on les cache. On ne veut pas montrer. Et ça me paraît logique, si on fait quelque chose d'interdit, nous avons meilleur temps de ne pas le faire aux yeux de tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? On le sait dans la parole, on dit que ce qui se passe dans l'obscurité est interdit. Mais quelles conséquences y a-t-il à vivre sa vie avec des choses cachées? Il est fort probable que notre conscience ne sera pas tranquille, qui que vous soyez, et que la crainte de se faire attraper restera constamment dans vos pensées. C'est sûr que quand on avait ce petit chat, c'était un petit chat, c'est pas grave, mais on se disait: mince, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas en paix. Et c'est exactement la même chose pour notre vie spirituelle. Nous pourrons être en paix avec Dieu que si notre vie est à la lumière et que rien ne lui est caché, vivant une consécration totale dans notre relation avec Dieu. Dans cette recherche des choses cachées, j'aimerais vous inviter à vous poser des questions. Comment réaliser si certaines choses sont cachées dans ma vie? Sommes-nous intègres en vivant notre foi devant les autres? On devrait se poser cette question. Sommes-nous intègres en vivant notre foi lorsque personne nous regarde? C'est facile de lever les mains à l'église: Alléluia, j'aime Jésus, je te bénis. Et derrière, ouais, c'est ça, faire beaucoup d'autres choses que personne ne voit. Cachons-nous des choses aux hommes, à nos frères et à nos sœurs? Cachons-nous des choses à Dieu? Nous pouvons peut-être cacher certaines choses aux hommes, mais Dieu voit tout. Ne soyons pas dupes. Qui peut cacher des choses à Dieu? Soit tu n'as pas encore compris qu'il a les yeux plus que derrière la tête, il les a partout et ils sont de ton cœur, soit tu dois l'entendre aujourd'hui ce matin. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous cachez des choses, les conséquences peuvent être très douloureuses. Ce matin, le titre de mon message est très simple: rien n'a caché. Rien n'a caché. J'aimerais vous amener dans un texte, je ne vais pas vous lire tout le texte, ça sera Josué 7. Je vais vous lire seulement quelques versets de 10 à 13. Mais tout le texte parle de ce chapitre de Josué 7, que je vous invite bien entendu à relire à la maison en entier. Même lisez le chapitre 6, c'est toujours bien de voir ce qui se passe avant et ce qui va se passer après, pour mieux comprendre. Josué 7, je lis versets 10 à 13. « L'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras. Consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. C'est un texte extrêmement intense, mais que nous devons remettre dans son contexte. C'est toujours important. Si je vous donne trois versets comme ça, quatre versets, je dois vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant. Josué a repris la charge après Moïse du peuple de Dieu. Il a traversé le Jourdain. Dieu a ouvert les eaux. Ils ont fait un mémorial pour se rappeler que Dieu est leur Dieu. Et ils ont accepté l'alliance de Dieu et de vivre selon les préceptes de Dieu. Ils se sont engagés. Et leur chemin continue. Ils entrent dans la terre promise. Parce que s'ils ont traversé le Jourdain, c'est pour entrer dans les promesses de Dieu. Dans la terre promise. Amen. Et devant, premier obstacle, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Jéricho. Grand mur, grande forteresse. Et là, d'une manière extraordinaire, Dieu va faire tomber ces murs et va dire, détruisez tout, et tout l'argent, tous les trésors, amenez-les au Seigneur. À la suite de cette victoire, le peuple est réjoui car il a vu son Dieu agir d'une manière extraordinaire et se sent prêt à continuer de prendre possession de la terre promise, de continuer de marcher dans les promesses de Dieu. Et là, une autre bataille s'annonce contre la ville de Haï, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au nord-est de Jérusalem, très proche de la ville de David. Et là, petite bataille, vous lirez dans le texte, « Oh, on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de gens, c'est tranquille, on est des boss, Dieu est avec nous, c'est bon. » Et là, ils envoient 3000 hommes. Et cette bataille qui semblait si simple devient une défaite et met le peuple en panique. Que se passe-t-il? Comme si soudainement, la main de Dieu n'était plus avec le peuple et qu'il n'était plus capable d'avancer dans la terre promise. Quelque chose s'est passé. Qu'y a-t-il? Le peuple se pose des questions et Josué se trouve prosterné à pleurer. Que fais-tu, Dieu? Tu nous as dit que tu serais avec nous. Il nous l'a dit qu'il serait avec nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas vaincre ces ennemis qui semblent si simples? Que faisons-nous lorsque nous n'avançons plus dans le plan de Dieu et que nous n'arrivons plus à vaincre nos ennemis? Que faisons-nous? Le texte est très clair, il dit bien dans le verset 12, « Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Tu ne pourras plus résister aux ennemis, dit la parole. Dieu annonce à Josué, tu ne pourras plus, tu seras battu, tu seras vaincu. » Je pense que ça nous est tous arrivé, un jour ou l'autre, de nous retrouver en train de faire du surplace avec Jésus dans notre relation. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens à l'église, je prie, mais rien ne se passe. Toujours la crainte, toujours la peur, toujours l'inquiétude, j'ai plus de joie. C'est comme si mes prières ne résonnaient plus, comme si Dieu n'écoutait plus. Il semblerait qu'il ne m'écoute plus, qu'il ne fasse plus attention à ma prière. Comme si nous étions seuls à nouveau devant les défis du quotidien, submergés par tous ces défis, sans voir aucun changement. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Certaines personnes sûrement se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Et je pense que si je pouvais vous illustrer ça de manière un petit peu plus ludique, c'est comme si vous revenez d'IKEA, vous avez acheté un super meuble, et vous ouvrez votre carton, et là vous avez un mode d'emploi, vous commencez, et mystérieusement, le mode d'emploi manque des pages. Et là, vous avez bien commencé, vous étiez là, vous suiviez le manuel. Et d'un coup, il n'y a plus le mode d'emploi et vous êtes perdu, vous êtes troublé. Je ne peux pas continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé pour se trouver dans une telle situation? Et là aussi, nous, si le peuple se pose des questions, nous devons nous poser des questions. Lorsque nous sommes face à une période de stagnation où nos ennemis semblent ne pas être vaincus, que faisons-nous? On peut se poser cette question. Est-ce que notre vie est conforme à la parole de Dieu? On peut aussi se poser cette autre question. Est-ce que nous obéissons sans compromis à ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous marchons par l'esprit et non selon nos désirs? Qui c'est qui dirige? Est-ce que c'est vos désirs d'accumuler les choses ou c'est l'Esprit de Dieu qui te dit renonce à ces choses? Car nous savons, la chair va à l'opposé de l'Esprit. Qui dirige vos pas? Et cette dernière question que vous pouvez vous poser, est-ce que nous sommes en paix avec ce qu'il se passe? Parce qu'il est vrai que de temps en temps, si une bataille dure, peut-être que Dieu veut faire quelque chose. On doit se poser ces questions. Et je pense que pour certaines de ces questions que je viens de vous dire, pour certaines, il est très simple de répondre oui, non, j'obéis, je n'obéis pas. Pour d'autres, il nous faut vraiment sonder notre cœur et laisser à Dieu nous révéler ce qu'il voit. Lorsqu'on demande à Dieu « sonde mon cœur, montre-moi », il faut aussi être prêt à écouter. Parce que vous pouvez venir à l'église, vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu, mais si vous dites vraiment « Seigneur, je veux avancer, je veux aller plus loin dans les promesses que tu as pour ma vie, montre-moi là où il y a encore des choses qui ne sont pas alignées avec ta volonté. » Soyez prêts à écouter. Comme le disait Marthe, ça risque de faire mal. Vous risquez de passer par des moments difficiles. Mais soyez prêts à écouter. Je trouve vraiment triste de réaliser que beaucoup de chrétiens restent dans de telles situations sans vraiment prendre de décision pour changer. Ils acceptent de se trouver devant des petites batailles. Hein, c'est bien noté dans ce texte, des petites batailles. Des petites batailles de notre quotidien. Mais ces petites batailles sont devenues des sources de panique parce que quelque chose ne tourne pas rond. Et le résultat d'une vie comme ça, c'est une vie spirituelle qui n'évolue pas et qui reste face à des combats sans victoire. J'aimerais vous dire quelque chose. On n'est pas appelé à vivre cette vie. Amen. On n'est pas appelé à rester face à l'ennemi invaincu. On est appelé à avancer, à prendre le territoire que Dieu a déjà préparé d'avance, à marcher dans ses promesses, lui faisant confiance que la terre promise est déjà prête. Notre vie spirituelle devrait progresser continuellement et vivant les promesses de Dieu jour après jour, après jour, après jour. Et ça, jusqu'au retour de Jésus. Parce qu'il a dit, il nous a créés afin de pratiquer des bonnes œuvres prévues d'avance. Chaque jour, amen, chaque jour de pouvoir dire, j'ai avancé, je me suis rapproché de Dieu. J'ai pris un peu plus de place, d'autorité sur l'ennemi, sur le diable. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est une réalité pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes appelés à devenir plus que des vainqueurs. Paul le dit, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Parce que la bataille est déjà gagnée. Parce que la bataille est déjà gagnée. Si nous sommes bloqués devant une situation et que nous ne voyons pas la victoire, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie personnelle avec Jésus. Dieu va dire clairement à Josué, « Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. » Il y a un objet, un péché que le peuple a pris. Il dit bien le peuple, il va accuser le peuple parce qu'on est unis. Et à cause de ce péché, à cause de cette désobéissance qui a été cachée discrètement, vous ne pourrez plus résister, je n'avancerai plus avec vous. C'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure de nouveau dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Cela peut être aussi le cas dans notre vie. Nous avons caché quelque chose qui n'est pas compatible avec le plan de Dieu. Nous avons laissé un péché s'immiscer dans notre marche spirituelle et nous ne l'avons pas ôté tout de suite. Combien de fois on laisse des choses, on se dit « Oh, c'est pas grave !» ou « C'est une petite chose !» Ce qui est caché aux yeux des hommes, c'est sûr, peut éventuellement passer inaperçu. Les gens qui viennent, qui s'asseyent à côté de vous, ne voient pas ce que Dieu voit. Je vous l'accorde. Moi-même, pasteur, on n'est pas forcément en train de voir ce qui se passe dans l'intérieur de votre cœur. Comme l'a dit Florian en commençant ce culte, lorsque tu seras face à Dieu, est-ce qu'il pourra dire « je te connais » parce que ton cœur aura été ouvert devant lui, rien de caché. On ne peut pas cacher les choses à Dieu. On peut essayer, mais ça ne marche pas. Tout ce qui n'est pas mis à la lumière est utilisé par le diable contre nous et peut parfois nous bloquer fortement dans les plans de Dieu. Si vous cachez quelque chose, laissez-moi vous dire, le diable l'utilise pour vous éloigner du plan de Dieu. Même si c'est une petite chose. Même si c'est une petite chose. Tant que quelque chose reste caché dans notre vie, Dieu ne pourra pas nous laisser continuer d'avancer dans son plan. Il désire un peuple qui lui soit consacré pleinement. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre vie en règle et révéler les choses cachées, les péchés cachés, les choses qu'on dit à personne, qu'on n'a jamais osé dire. Peut-être ça fait 5, 10 ans. Dieu veut un peuple consacré. Il va le dire, c'est très clair. Lève-toi, consacre le peuple. Et ensuite, juste le mot d'après, tu ordonneras, consacrez-vous. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Il y a une différence entre une option et un ordre, vous êtes d'accord avec moi, non? Est-ce que Dieu nous dit, bon, tu peux venir et me suivre si tu es à moitié consacré? Ou toi, tu peux être consacré, puis pas toi? Non, il veut la consécration de tout son peuple. Et nous sommes son peuple. Si vous reconnaissez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous êtes son peuple, des enfants et des filles de Dieu. Ce mot consacré, vous l'avez peut-être déjà entendu, kadash. Ça veut dire se sanctifier, se préparer, dédier, être saint, être séparé, être mis à part. Waouh, c'est pas rien. Et dans cette demande, tout le peuple doit se consacrer, peu importe la place de la tribu de chacun, peu importe sa place dans la tribu, chacun doit se consacrer. Chacun. Vous savez pourquoi je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi là tu dis tout le monde? Pourquoi pas juste la personne? Parce que Dieu, il savait qui c'était. Il savait qui avait péché, il savait qui avait pris cet argent, cet or, ce manteau. Il savait qu'il y avait une personne qui avait désobéi. Mais il a dit, je veux que tous marchent ensemble, que tous soient droits devant moi. Parce que lorsqu'on est tous consacrés, il y a la force dans l'unité. Le diable ne peut pas diviser. Donc on doit tous se consacrer. Et j'ai l'impression que souvent, quand on pense à consécration, on pense à c'est pour l'élite chrétienne. Hein, c'est pour l'élite, c'est pour les pasteurs, c'est pour les conseillers. Hein, consacrez-vous les conseillers pour pouvoir prier pour nous. Pour les leaders de louange, etc. Pour ceux qui sont utilisés devant les autres. Mais non. C'est pour toi, 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 toi. Et chacun, et les jeunes qui sont là-haut, qui font l'effort d'être avec nous ce matin, les jeunes du KT, aussi, l'appel est pour chacun, doit se consacrer, chacun. Dieu désire un peuple qui est à part et qui agit selon ses préceptes et qui n'est pas guidé par les lois du monde. Pierre est très clair, hein, 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. » Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce qui est caché, les amis, c'est très clair, ce sont les ténèbres, d'accord? Tout ce qui est caché, c'est dans les ténèbres. Et ce qui est dans les ténèbres est utilisé par le diable contre ce que Dieu veut faire dans votre vie. Si cette histoire date de plusieurs centaines d'années, avant même que Jésus arrive, j'aimerais vous dire, la consécration est plus qu'actuelle et décisive dans notre vie chrétienne. Plus que décisive. Et je pense, on en a parlé dans le week-end, dans une époque dans laquelle nous vivons, c'est d'autant plus important. Parce que le diable se répand de manière encore plus sournoise. Rien ne doit être caché. Sinon, nous ne nous tiendrons pas devant les attaques du diable. Tout ce qui est à l'ombre doit venir à la lumière. Et j'ai pensé, pour rigoler, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Et j'ai pensé à ces films de cow-boys, vous savez, quand ils viennent dans un endroit neutre, et ils ont plein d'armes, ils les posent sur une table, il y a un gars qui dit, ah non, non, et il va dire, et le petit pistolet que tu as dans ta chaussure coincé en dessous, celui-ci aussi tu l'enlèves. Celui-ci aussi tu l'enlèves. Il n'y a rien qui passe en dehors du détecteur de Dieu. Toute chose doit être mise à la lumière. Choisir de se consacrer à Dieu, c'est choisir de suivre le programme de sanctification qui est nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu et voir Dieu agir dans notre vie. Ne croyez pas que vous pourrez vivre les bénédictions de Dieu si votre vie n'est pas en règle avec Dieu. J'aimerais vraiment vous dire ça. On a beau dire, ouais, mais je prie. Mais souvent, justement, les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ? Parce que quelque chose n'a pas été mis à la lumière. Parce qu'il y a peut-être encore une idole dans ton cœur que tu essaies d'étouffer. Non, non, c'est pas grave. Jésus, je t'aime. Puis lui, il fait, non, non, mais il y a ça. Ouais, mais Jésus, je t'aime quand même. Je viens à l'église, je prie. Nous devons garder notre révérence intacte envers Dieu. Que notre vie spirituelle soit exempte de toute saleté et ne soit pas tachée par les compromis et les péchés cachés. Au contraire, nous devons nous exercer. Je dis bien, c'est un exercice. Ça demande de la pratique. À vivre en accord avec la parole de Dieu, cherchant à être saint comme Dieu est saint. Et nous devons choisir de nous entraîner à pratiquer ce qui honore Dieu. J'ai repris ce petit passage que j'ai donné durant le week-end en disant, mais comment on peut grandir dans cette consécration ? C'est très simple, en vivant la piété au quotidien, en cherchant à pratiquer les choses qui honorent Dieu, au quotidien, en s'exerçant comme des athlètes, on s'entraîne jour après jour. Comment vous voulez gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques sans vous entraîner ? C'est pas possible. Alors très concrètement, j'aimerais vous donner quelques possibilités de grandir dans votre piété et ainsi de faire de votre consécration quelque chose qui est solide. Passez du temps avec Dieu, comme le disait aussi Florian, dans la louange. Je l'ai dit durant le week-end, dès le matin, mettez la louange autour de vous. Quelle musique tu écoutes ? Quelles sont les premières paroles qui rentrent dans tes oreilles le matin ? Ça aura une grande influence. Quelles sont les premières choses que tu lis le matin ? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité et qui te donne de marcher dans son sentier parce qu'il te dit « Ma parole est une lumière sur ton sentier. » Elle te guide pas après pas. Qu'est-ce que tu choisis de faire dès le début de ta journée ? Passe du temps avec Dieu, dans la louange. Prends du temps dans la prière. Alors que je lis aussi beaucoup sur la prière ces temps aussi avec un des frères dans le groupe de jeunes, je suis bouleversé de voir que tous les réveils, tous les appels, toutes les grandes choses qu'on parle démarrent dans la prière. Et je l'ai dit, j'étais bouleversé par un livre que j'ai lu sur la Pentecôte. Jonathan Edwards, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était pas rare qu'il passe 18 heures avant de prêcher, en prière. Donc 18 heures en prière avant de prêcher. Hier, j'étais là, je parlais avec Florian, on a prié. À un moment, je lui ai dit, mais bon, bah, tu me retrouves demain matin, je vais rester ici, prier toute la nuit. Je n'ai pas fait ça, mais j'ai prié quelques heures, mais je me dis, mais Seigneur, je comprends pourquoi ensuite les gens étaient à genoux, pleuraient, convaincus de péché, parce que derrière, il y avait eu le combat dans la prière. Laissez-moi vous dire que si vous croyez que Dieu peut faire des miracles, dans la prière, il les accomplit. Mais votre vie doit être en règle. Écoutez des prédications choisies avec soin. Venez demander au pasteur Walter, pasteur Jean-Paul, moi-même. Et écoutez des prédications une fois par semaine, c'est super. 35 minutes, 40 minutes, c'est bien, vous êtes attentif. Mais le reste de la semaine, vous faites quoi ? C'est quoi ? Vous regardez des feuilletons sur Netflix ? Vous regardez quoi comme émission ? Qui sait, juste par curiosité, qui sait qui écoute des prédications la semaine ? Juste par curiosité. Waouh ! Gloire à Dieu ! Je prie que toutes les autres mains se lèvent aussi durant les prochaines semaines. Je vous encourage. Écoutez des prédications. Ça va enrichir votre vie spirituelle. Lisez des livres qui édifient votre foi. J'aime bien les romans, j'aime bien les science-fiction, c'est vrai, j'aime beaucoup lire, mais j'avoue que ces dernières années, mes choix de lecture sont assez orientés sur ce qui va édifier ma foi. Faites de même. Il y a de nombreux ouvrages qui vous feront du bien et qui alimenteront votre foi. Florian me disait ça hier. Je viens de finir le livre de Papa Jean, on peut faire la publicité. Maintenant, mon œil t'a vu. Lisez des livres, lisez des témoignages, faites grandir votre foi. Maintenez votre consécration et supprimez toute activité qui vous éloigne de Dieu. Et ça, vous savez quoi, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Lorsque vous laissez l'esprit vous sonder, il va vous le dire tout de suite. Lorsque vous êtes au cinéma et que vous regardez un film, vous êtes là, je ne suis pas trompé, ouais, c'est pas grave, c'est juste une heure et demie. Sortez du film. Ayez le courage de sortir du film et vous verrez ce que Dieu va produire dans votre vie. Notre consécration doit être totale. Et bien entendu, le coup sera également total. Ça va être dur. Vous allez peut-être perdre des amis, je l'ai déjà dit, je pense que je n'ai jamais perdu autant d'amis depuis que je me suis avancé du Seigneur. Je pleure, je vous le dis. Des fois, je pleure, c'est difficile. Je vois que ma vie avant, le diable me rappelle, regarde ça, 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 et aujourd'hui c'est plus pareil. Mais je fais non, je veux la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Et si je dois pleurer, je pleurerai, mais je veux rester avec toi. Soyez prêts à payer le prix, mais vous pourrez aussi vaincre les ennemis qui seront devant vous après. Comme je le disais, si les athlètes, et Paul le dit, si les athlètes s'imposent toutes sortes de privations pour obtenir une couronne qui va se détruire, nous, on le fait pour une couronne indestructible. Lorsque vous faites violence, lorsque vous maintenez votre piété, lorsque vous vivez la consécration, sachez que c'est pour l'éternité. Que toute chose ici va disparaître. Les beaux bateaux, les maisons, les voitures, toutes ces choses qui nous donnent envie, les beaux habits, etc. Toutes ces choses ne servent strictement rien pour l'éternité. Si Salomon l'a dit, je pense qu'on peut lui faire confiance. Tout n'est que futilité. Dieu peut et veut agir dans une vie qui est exempte de péché. J'ai bien dit, Dieu peut et veut agir dans une vie qui est exempte de péché et l'utiliser pour accomplir ses promesses. C'est pourquoi gardons notre cœur pur, afin que rien ne reste caché, et reprenons ce que l'ennemi cherche à nous voler. Il lui a dit, tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Ça veut dire qu'il a dit, jusqu'à, mais après. Il a dit, tant que tu as quelque chose de caché, je ne pourrai pas agir pour toi. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je fais ça. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi des fois c'est si dur? Pourquoi j'avance pas? Parce qu'il me dit, parce que tu n'es pas encore suffisamment sanctifié. Parce que tu n'as pas encore mis ta vie en règle dans cette là, ça, 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 ça. Parce qu'il veut qu'on soit comme lui. Il veut qu'on lui ressemble pour pouvoir agir et que ce ne soit pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Donc il est obligé de faire, il est obligé de nous éprouver de nos motifs et qu'il n'y ait plus rien de nous, mais que de lui. Dieu est clair dans sa parole, si nous ne mettons pas notre vie en règle, alors nous ne pourrons pas voir Dieu agir dans notre vie. Mais lorsque nous choisissons de remettre notre vie en accord avec la parole, nous pourrons être certains que Dieu combattra pour nous. Vos combats, mes combats, et j'en ai, on en a tous. Certains qui sont récurrents, on se dit, mais Seigneur, je pensais que c'était fini. Sonde-moi, montre-moi qu'est-ce qui m'empêche de marcher dans cette victoire. Parce que Dieu dit, je suis celui qui combat pour vous. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre intellect, ce n'est pas vos papiers, ce n'est pas vos finances qui vont permettre de vaincre. C'est Dieu en vous. C'est Dieu qui se bat pour nous. Le vaillant guerrier El Gibor, c'est lui qui se bat pour nous. Si le diable peut avoir de l'influence sur nous lorsque nous avons un péché caché, et il est vrai, il est évident qu'il ne peut plus rien faire au moment où ce péché est avoué et mis à la lumière. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu une fois. Et je pense que c'est aussi là le combat le plus compliqué. Décider d'avouer son péché caché. D'écouter ce que Dieu nous dit. De ne pas croire ce que nous dit le diable. Tu n'as pas besoin d'avouer ce péché. Tu peux continuer ta vie comme ça. Tu vas perdre ta crédibilité. À quoi bon le dire si ça fait si longtemps ? Etc., etc. Ces mensonges qui vous empêchent de mettre votre vie en règle, d'aller creuser pour enfouir. C'était ce que Akan a fait. Il l'a creusé, ce trésor, il l'a enfoui sous sa tente. Il ne l'a même pas utilisé. Mais c'est nul. Mais c'était quelque chose qui était enfoui. Et pourtant, ça portait préjudice pour tout le peuple. Quelque chose, des fois, qu'on dit, on l'a même oublié. Et ça arrive. Mais quand vous demandez, Saint-Esprit, sonde mon cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Je peux vous dire, lui va venir parce que lui voit tout, il voit les sous-sous-sols de vos cœurs et de mon cœur. Et il va dire, là, au sous-sous-sol, il y a une porte, elle est un peu crade, il y a un truc, viens voir. Et sors-le, on va le balayer. Le diable mettra de nombreuses pensées dans votre tête afin de vous freiner à prendre cette décision. Il ne veut pas, parce qu'il sait, que du moment où vous le ferez, il sera vaincu. Il sait que du moment où vous avouerez ce péché, cette chose que vous avez continuellement convoitée, vous êtes dit, c'est pas grave, je passe 3 kilos de viande chaque mois, chaque semaine à la douane, c'est pas grave, c'est juste 2 kilos de plus. Ça va, Seigneur, je t'aime. Je jeûne aussi, des fois, je mange pas de viande. Tu vas me bénir, Seigneur. Tu vas me bénir, Seigneur. Il veut nous faire croire que les promesses de Dieu sont échues et que nous ne pourrons plus entrer dans la terre promise. Le diable veut par ces péchés cachés, gangréner notre foi. Et penser que, vu qu'on a laissé ça, bon ben voilà, on n'avance pas, mais ça va, c'est pas mal, on n'est quand même pas trop mal. Et vous dire, de toute façon, c'est trop tard. Ce que tu as raté, tu ne pourras plus l'avoir. C'est faux. C'est un mensonge. C'est exactement le contraire. Alors que vous mettez votre vie en règle, Dieu restaure votre cœur. Amen. Combien de personnes ici, le jour où ils ont choisi de dire « Seigneur, viens dans ma vie, je t'amène mes péchés, je réalise que je suis pécheur. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pointé du doigt, il a dit « Mauvais ». Il a dit « Viens, je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour te sauver. Je suis là pour restaurer ton cœur. Je suis là pour te donner un nouvel espoir. » Dieu restaure notre cœur et nous remplit de son esprit. Et il nous conduit dans la suite du chemin qu'il avait commencé avec nous. Parce que si on a commencé, vous savez, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Même si nous, on fait un moment de pause, si nous, on doit mettre des choses en règle, il attend, il est là, bon, tu fais quoi? Je t'ai déjà dit, tu fais quoi? Et des fois, je me dis, mais le Seigneur, il doit nous regarder et se dire, mais celui-là, il est vraiment lent à comprendre. Ou celle-ci est vraiment lente à comprendre. Elle me dit, Seigneur, je veux avancer avec toi. Puis en fait, elle n'écoute pas ce que je lui dis. Mais lui, il est là et il continue. Il persévère parce que son amour persévère jusqu'au bout pour nous. Dieu nous a rachetés par son sang et il a donné sa vie pour nous. Sachez qu'il n'arrêtera jamais, jamais de nous poursuivre par son amour. Ce qu'il a commencé, il le continuera. Il s'est engagé pour nous et c'est pour cette raison qu'il veille à notre santé spirituelle. Dites merci à Dieu quand quelque chose ne fonctionne plus dans votre vie spirituelle, parce que Dieu est en train de dire, si tu veux aller plus loin avec moi, tu dois aller déterrer ce qui est enfoui. Et ça peut être, pour l'exemple de Jonas, ça peut être le foot. Quelque chose qui semble être parfaitement bien, mais finalement c'est enfoui et ça prend plus de place. C'est une idole, c'est un péché qui est devenu idolâtre. Ce péché, il dépend de votre vie. Moi je ne le connais pas, mais moi je sais que Dieu le connaît. Dieu veut que nous puissions prendre possession de la terre promise. Les promesses qu'il a pour nous, elles sont oui et amen. Et elles sont pour chacun d'entre nous, pas que pour certaines personnes. J'ai lu un livre qui m'a bouleversé, que j'avais pris chez mes grands-parents, « Vive comme l'enfant d'un roi », extraordinaire livre, extraordinaire. Et dans ce livre, cet homme qui est converti de manière aussi juste radicale et qui va donner sa vie radicalement au Seigneur, va être amené à prier dans maintes et maintes situations. Et un jour, il est devant une femme qui est tellement elle a été affaiblie par son corps, toutes ses articulations se sont devenues bloquées. Et elle est dans une chaise roulante. Et ça fait longtemps qu'elle demande la prière. Et lui, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis comme ça, il s'est arrivé quelque chose. Et là, il va dire, ok, et il ne prie pas pour elle, et il va prier vers le Seigneur. Et Dieu lui révèle, cette femme n'a pas pardonné à sa sœur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et sa situation physique est la cause de son non-pardon. J'étais là bouleversé quand je disais ça. Lui, il est revenu, il a dit, ma sœur, je vais prier pour toi, mais d'abord tu dois pardonner à ta sœur. Eh, je ne peux pas, elle est méchante, elle a fait ci, elle a fait ça, et bababa, et Et finalement, par l'action de l'esprit, cette femme va abdiquer, elle va abandonner, elle va dire « je pardonne ». Instantanément, dans les jours qui ont suivi, elle s'est levée de sa chaise et son corps a été rétabli. Laissez-moi vous dire, peut-être dans ta situation, tu es bloqué physiquement, peut-être spirituellement, parce que quelque chose est caché dans ta vie. J'aimerais vous inviter à choisir de pardonner, d'avouer le mensonge qui vous hante, de jeter les livres, films qui ne rendent pas gloire à Dieu. N'acceptez pas des cadeaux volés. Ne compromettez pas votre sainteté. On vous dit, tiens, je te file un pantalon qui est moins cher, mais il vient d'où ce pantalon? N'acceptez pas des choses qui ne sont pas à la lumière. Ne vivez pas avec des choses cachées. Veillez à votre consécration dans chaque détail de votre vie. Priez Dieu qu'il affermisse vos pas dans sa parole et qu'il ne laisse aucun mal dominer sur vous. Et c'est le psaume 119 qui le dit. Dieu a fermé vos pas. Dieu vous conduira vers ses verts pâturages. Il l'a dit, il est le bon berger. Il nous conduit vers les bons pâturages, vers les verts pâturages, où sa vie abonde. Il nous donnera la victoire dans nos souffrances, dans nos défis, dans nos craintes. si nous n'avons rien de caché devant lui. Son Saint-Esprit viendra sur vous et vous donnera la force de vaincre chaque ennemi devant lequel vous ferez face.